L'âge bête sur RCN.
Bonjour à tous, merci d'écouter RCN. Nous sommes le 19 février et comme chaque semaine à cette heure-ci, vous écoutez L'âge bête. Cette semaine, toute l'équipe du lycée Marquette est en vacances, alors je vais vous proposer un petit best-of des émissions précédentes que vous avez peut-être ratées. Au programme aujourd'hui, on va parler de l'origine des expressions françaises avec Lucie et du conte bien célèbre du lièvre et de la tortue avec Louise. Il y aura bien sûr le quiz de culture générale d'Antonin dans quelques minutes, mais voici le programme, merci d'écouter RCN, on est ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
On commence au best-of de l'âge bête par parler de l'origine des expressions françaises. C'est une chronique de Lucie du 15 janvier dernier.
RCN, l'âge bête.
Donc pour commencer, est-ce que vous connaissez l'expression avoir un chat dans la gorge?
Oui, évidemment.
Bah, c'est tout le monde la connaît tampour. Celle-là.
Voilà. D'ailleurs, j'ai moi-même un chat dans la gorge, donc.
Ça voilà. Tombe bien.
Donc elle remonterait au 11e siècle. Le mot chat, à ce moment-là, il était remplacé par maton, M-A-T-O-N, tout simplement. Ce mot, il signifiait un grumeau que l'on trouve dans le lait caillé, un peu comme des glaires qu'on a dans la gorge.
Ok,
voilà,
c'est bizarre. Hein.
C'est sympathique. Donc vous allez me dire, bah, pourquoi le chat? Pourquoi ça s'est remplacé par chat? Donc au début du 19e siècle, donc longtemps après, le mot maton, il a évolué et son... Et il désignait alors un amas de laine ou de poils qui bloque par exemple la gorge, etc. Par la suite, le mot maton est devenu matou. Et là, matou, on voit pourquoi c'est devenu chat. D'où l'expression avoir un chat dans la gorge. Mais certains linguistiques, ils sont sceptiques avec cette hypothèse-là et ils préfèrent faire la comparaison d'une personne enrouée avec le ronronnement d'un chat.
D'accord.
Donc pour conclure, cette expression... pour conclure, les Anglais, eux, ils disent avoir une grenouille dans la gorge.
J'avais entendu quelque part.
A frog in the throat, je ne sais pas trop comment on dit.
Ouais.
Et les Italiens, un crapaud. Avere un rospo in gola.
Oui, c'est pour leur façon de croasser et même pour les chats de ronronner, du coup.
Ça, voilà. finalement, aujourd'hui, cette expression, elle veut tout simplement dire être enroué et avoir une gêne dans la gorge.
D'accord.
Pour continuer, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression « donner sa langue au chat » ?
Oui.
Ça, là aussi, je la connais.
Je continue dans les chats. Donc, cette expression, elle date environ du 19e siècle et plus précisément d'environ 1860. Elle vient d'une autre expression beaucoup plus ancienne, « jeter sa langue au chien ».
Donc là, c'était pas le chat, c'était le chien.
Voilà. Et donc, en fait, on disait ça car on donnait les restes de nourriture au chien. Elle servait à représenter métaphoriquement à son interlocuteur les restes que l'on jetait aux canidés, ce qui n'avait pas de valeur pour les humains. Donc si on leur jetait sa langue, c'est comme si on abandonnait la parole et donc on renonce à résoudre un problème.
D'accord. Mais est-ce que c'est pareil, l'expression qu'on donne même aux petits biscuits, la langue de chat, est-ce que ça revient de là ou pas?
Je sais pas du tout.
Mais du coup, pourquoi on est passé du chien au chat?
C'est ça.
Attends 30 secondes.
Ok, ok.
Donc plus tard, c'est au 19e siècle, Aurore Duplain. Est-ce que vous savez c'est qui?
Non, ça pas du tout.
C'est George Sand.
Alors là, ça me dit quelque chose, mais je saurais pas dire.
Il me semble. J'ai vu que c'était la même personne apparemment, donc je sais pas trop, j'ai pas trop compris, mais à vérifier.
D'accord.
Elle disait mettre quelque chose dans l'oreille du chat. On se rapproche un petit peu, mais c'est toujours pas l'expression qu'on veut. Donc ça voulait dire confier un secret à quelqu'un, voilà, tout simplement.
Pourquoi un chat alors?
Bah parce qu'ils ont des grandes oreilles, tu sais.
Oui, bah oui, les chats et
tout. Ah. Pour faire passer un secret, voilà. Je pense que...
Et donc en fait...
Ça aurait pas été le premier. Oui.
Et en fait, à cette époque-là, les chats, c'était un peu les gardiens des secrets. Voilà. Oui. Et donc... Si on leur donnait notre langue, après, quand elle est devenue donner sa langue au chat, c'est comme si on donnait notre langue et qu'on lui confiait un secret, etc.
Oui, d'accord.
Voilà. Et donc, ils ont associé les deux expressions pour en faire qu'une seule, pour que ce soit plus simple.
Ok, donc c'est donner sa langue au chat et avec l'oreille, donner son mot à l'oreille.
Alors, il y avait jeter sa langue au chien au début et j'ai dit mettre quelque chose dans l'oreille du chat. Et les deux expressions ont fusionné pour donner sa langue au chat.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Pour que ce soit plus simple. Ils ont simplifié, en fait.
C'est vrai que c'est plus simple à retenir.
Oui, oui.
Parce que des expressions comme ça,
c'est un peu compliqué. Dur.
On se perd les pattes.
C'est le cas de le dire, du coup. Donc, pour terminer, est-ce que vous avez déjà utilisé l'expression « en voiture, Simone »
Oui. Oui.
Il y a même
je pense pas
une séance d'auto-école, je crois, comme ça.
Ah oui.
Ah oui.
Je oui, effectivement. Donc, elle date du XXe siècle. Pour commencer, la Simone dont on parle dans l'expression, elle est née le 7 mars 1910 à Royan et elle est morte le 15 novembre 2004 à Vichy, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
Une vingtaine d'années quand même.
Oui, mais par rapport à d'autres choses, il n'y a pas si longtemps.
Oui.
De son nom complet, Simone Louise de Pinay de Bordes des Forêts, elle a obtenu son permis en 1929 à 19 ans et a commencé les courses automobiles et les rallyes à 20 ans, donc un an plus tard après avoir eu son permis. Elle a concouru jusqu'en 1957 et n'aura eu aucun accident pendant sa carrière. C'est extraordinaire.
Quel génie.
Ouais.
Quel génie, Simone.
Donc, elle a été très célèbre, voilà. C'est dommage oui. d'ailleurs qu'on ne sache plus qui elle est, comme ça, juste quand on dit l'expression. Parce que moi, je ne savais oui. pas qui elle était.
Maintenant, on le sait tous.
Donc, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas laissé tomber les voitures. Elle a effectivement conduit un camion de la Croix-Rouge pour aider les gens. Et enfin, en 1950, elle a ouvert une auto-école et a enseigné pendant 25 ans le permis, etc.
D'accord.
Voilà. Donc, l'expression, elle était plus longue qu'aujourd'hui, avant. C'était « En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ». Ils l'ont réduit, heureusement. Ça fait très long à dire. Celle-ci, elle a été prononcée pour la première fois dans une émission de télé, Interville. Voilà. Donc, qui date à peu près de...
Ça va faire hyper voilà, longtemps, oui, parce
1900.
Que je ne sais pas c'est
Et apparemment, émission. Aujourd'hui, elle est encore diffusée. Alors, je ne sais
sur quelle chaîne.
J'ai déjà entendu idée. Parler de ça. Voilà. Mais je ne sais pas sur quelle chaîne.
Donc, à cette époque... elle était animée par Guy Lux, Simone Garnier et un autre, je ne sais plus du tout comment il s'appelle, je ne l'ai pas noté. Et en fait, c'est Guy Lux qui faisait référence à sa collègue Simone Garnier, mais également à Simone Louise en disant, en disant ça pour l'embêter.
Mmh.
Voilà. Et il lançait l'émission comme ça, en avant Simone, en voiture Simone.
Ok, donc maintenant, c'est juste une phrase, par voilà. exemple, en fin de phrase, en voiture Simone.
Voilà, pour allons-y.
Partout. Ça passe partout.
Voilà.
RCN, l'âge bête.
Dans un instant, dans le best-of de l'âge bête, c'est l'heure du grand quiz de culture générale. Mais pour l'heure, on s'écoute Ciel de Maître Gims sur RCN.
Ciel, ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire vu les bouts de verre.
les doutes et la peur de te perdre. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne.
L'âge bête sur RCN.
Merci d'écouter RCN en ce mercredi après-midi. Vous écoutez le best-of de l'âge bête, puisque toute l'équipe du lycée est en vacances cette semaine. À cette heure-ci, comme toutes les semaines, c'est l'heure du quiz général avec Antonin.
RCN, l'âge bête.
Donc, première question. Dans la mythologie grecque, qui était l'époux d'Aphrodite?
L'époux
Alors,
d'Aphrodite.
Aphrodite, c'est la déesse
de l'amour,
oui,
et du charme.
Ouais.
Donc son époux.
Je crois que c'est celui qui. Ah, c'est celui qui. Là, un des frères. Il y a trois frères. Il y a Hadès, il y a Zeus, Poséidon, et il y en a un troisième frère, il me semble. Et c'est ce troisième frère là.
Oh, je t'avoue que je sais pas.
Alors, Poséidon, je crois que Hadès. Oui. Il me semble côté sur la bonne voie.
Mais je sais plus.
Oui, ils sont quatre.
Ils sont quatre. Et oui, c'est le quatrième des frères.
Mais tu me diras si ça dit quelque chose du coup dans les propositions que je vais donner. Donc l'époux d'Aphrodite est soit 1 Zeus, 2 Héphaïstos, 3 Arès.
Héphaïstos.
Le dieu qui fabrique
oui,
les objets.
Oui, qui fabrique des objets.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est dieu de la forge, non?
Oui, ouais, voilà.
Du feu aussi. D'ailleurs, c'est comme ça aussi dans les histoires où il raconte que. Épiméthée, c'est ça, il avait pris le feu à Héphaïstos pour le donner aux humains.
Voilà, et
oui.
Oui, je l'ai vu en film.
Et après, il s'est fait punir.
En film, c'est ça
en philosophie.
En philosophie. Ah, en philosophie. Ah, c'est marrant. Non, parce que moi, c'est dans une BD, je crois, où en fait, il représente très très bien sous forme d'histoire la mythologie grecque, en fait. Et il y a toutes les histoires.
Ouais, et c'est Épiméthée,
en fait.
Et c'est, après, pardon, Épiméthée oui, qui vole le feu et le donne aux humains parce que.
Voilà. Il n'y a pas que le feu, hein,
oui,
par contre.
Oui.
Il y a l'intelligence, l'art du combat.
Oui,
aussi.
Mais le feu, ça représente l'intelligence,
ouais,
l'art de combat.
Oui, parce que le feu, ça représente symbole, l'intelligence et aussi la technique.
Parce qu'il ne l'avait pas encore. Et donc,
et voilà. Là.
Oh, ok. Je vois, je vois. En tout cas, donc c'est une bonne réponse.
Bah, parfait.
Bon. Deuxième question. Quel est le plus au sud de ces fleuves? Donc, 1. L'Orénoque. 2. L'Amazone. 3. Le Colorado.
Wow. Vous avez une idée?
Je dirais suis très nul en géographie, donc.
Colorado.
Alors le plus au sud, c'est en bas. Non, en fait, je dis ça, c'est parce que il y a des
fleuves. Bah oui.
En fait,
ils sont assez longs, donc.
Bah oui.
Il y a une différence de fleuves. L'Orénoque, pour vous donner un indice, c'est plus en Amérique du Sud. Pareil pour l'Amazone. Du coup, ce serait plutôt eux, mais le Colorado, voilà, est plus long, donc en gros,
ouais,
ça
donc
donne le bénéfice
faire plus de.
Parce
distance.
Que le Colorado, c'est aux États-Unis, je pense que vous le savez.
Oui. Bah
donc,
franchement, je sais pas.
Non, aucune idée là.
Bah, peut-être pas du coup s'il est aux États-Unis.
Ouais, je pense plutôt l'éliminer,
oui.
Ouais.
Ok, donc vous avez le choix entre l'Orénoque et l'Amazone.
Je dirais l'Amazone.
Oui. Ouais,
est-ce qu'un
l'Amazone.
Des deux vous dit quelque chose, vous connaissez
Non, pas spécialement.
Non, pas spécialement. Donc en fait, il s'agit du Colorado. Oui, alors aux États-Unis, à l'Amérique du Sud quand même. Hein. Alors j'ai vu, alors je crois que je me souviens, c'est 7,5 km. 7500 km.
Il est super
en fait,
long.
J'arrive pas à voir ce que ça représente.
Oui.
Mais du coup, je pense que ça suffirait à descendre plus au sud.
J'avais raison.
J'aurais
dû rester sur la
première.
C'est vrai. Troisième question. L'acteur principal de It's a Wonderful Life est 1. James Stewart, 2. David Niven, 3. Woody Allen.
Est-ce que vous avez vu ce film?
Non. Non.
Ok.
Ah.
Il parle de quoi ce film?
Bon, bah en fait, faites au hasard. À vrai dire, je ne le connais pas.
Ok, donc on parle d'un film qu'on ne connaît pas. Je dirais la deuxième proposition, juste comme
voilà.
Ça. Allez.
Mais en fait, je suis tellement honteux. Mais c'est pas grave. Allez, donc la réponse c'était James Stewart quand même, hein, faut quand même le dire, l'acteur principal de It's a Wonderful Life.
Ok, super.
Et la prochaine fois, allez, alors qu'est-ce que je vais dire la prochaine fois? Bon, déjà, je vais raconter un peu l'histoire de ça la prochaine fois et on va dire quel est le producteur, voilà.
Ça marche.
4, la zibeline et la fourrure. 1, du castor. 2, de la loutre. 3, de la martre.
La zibeline?
Oui. C'est le nom d'une fourrure.
Je pense pas que ce soit la fourrure de la loutre, dans le sens où c'est assez courant, donc je pense qu'on aurait un nom qui nous parlerait.
Il y a... Je pense que c'est le dernier, parce que ouais. Je connais pas.
Moi aussi.
Ou alors castor, hein. Non,
non, je pense pas.
Ah,
pense
peut-être que c'est des espèces protégées aussi.
La martre, vous connaissez pas?
Non, je sais pas ce que c'est.
Si, c'est une petite loutre aussi, je crois.
C'est aussi, en fait, ça ressemble
à... Ah bah alors, peut-être le castor.
Un petit ragondin. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, la martre.
Bon, écoutez, moi, je dis castor.
Moi, je dis la martre, allez.
Ok.
Bah, je dis castor aussi.
Castor. Eh ben, la zibeline et donc la fourrure de la martre.
Ah,
ok.
Donc la martre, voilà, ça ressemble un peu à tout ce qui est loutre, castor, voilà.
Petit ragondin.
Exactement. Cinquième question. Qui a prévu le premier, le premier dans l'histoire, en fait, une éclipse solaire? Déjà, si vous connaissez,
c'est
hein,
un
vous
grec.
Toujours dire quelque chose.
C'est forcément un grec.
C'est pas celui qui a créé l'objet pour se repérer quand on est sur un bateau, le tout premier objet.
Mais ça n'a pas de rapport avec une éclipse, si?
Oui, mais
parce
qu'il
c'était
ciel,
dans le ciel et tout, c'est.
C'est avec le ciel un petit peu.
C'est possible qu'on l'ait vu en mathématiques.
Oui.
Ah, ça peut être un bon indice.
Alors attention.
En fait, oui.
Ah, moi je suis arrêtée à Pythagore,
c'est plus...
alors.
Thalès.
Oui, bon après, on n'avait pas beaucoup de solutions. Oui, alors voilà, j'avais proposé Thalès, Aristarque et Galilée.
Mais c'était forcément grec.
Ouais.
Voilà, donc il s'agit de Thalès. Personne connaît son prénom.
Non.
Bah, c'est peut-être Théorème, du coup, on va dire ça. Ouais. Sixième question. Aujourd'hui, disparu, le dodo était un rongeur, donc je parle d'un animal. Hein. De un oiseau, 3, un ours.
Un oiseau.
Un oiseau,
c'était un
petit dinosaure.
Oui,
quatre,
le dodo.
Un paresseux.
Une sorte... On a tous eu Jurassic Park
ici. Une
sorte
de petit pigeon, un peu, comme
mais
ça.
Mais c'était super chou, je crois.
Oui.
C'est un peu un pigeon amélioré, on va dire.
Ouais.
Mais un gros pigeon, alors.
Oui, certaines améliorations, quand même. Ouais, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, il est disparu, plus moyen d'en croiser. À part...
Dans Jurassic Park.
Ouais,
c'est ça.
Y
ou
en
dans
a
les musées.
Dans Jurassic Park.
Non, oui, je crois qu'il y en a, hein.
Ouais.
Après, il y en a plein de Jurassic Park. Jurassic World.
Le dodo, c'est celui qui est avec
des grosses plumes.
Mais oui,
ouais,
c'est
des grosses
ça.
Plumes de toutes les couleurs.
Oui,
rouge,
c'est ça.
Rouge, bleu, jaune.
Ouais,
ah,
c'est ça.
Je vois.
T'étais censé avoir fait des recherches dessus.
Non, mais j'avais un doute. J'avais un doute.
Oui, oui, bah c'est sûr, c'est pour ça qu'on connaît le dodo.
Franchement, moi je le trouve fascinant. Il est assez beau.
Mais c'est dommage qu'il soit éteint.
Ou pas, bah, ouais. Hein. Ou pas. Ça reste un dinosaure. Ouais. Hein, voilà.
Septième question. La première édition du dictionnaire de Littré date de 1791, de 1821 et 3 1867.
Alors 1700 et quelques.
1780.
C'est tôt, hein, quand même.
Parce
ouais,
que
mais quand j'ai fait mes recherches pour mes expressions, j'y avait plein de dictionnaires qui dataient de
ouais,
très
ouais,
longtemps.
Ouais. Les premiers dictionnaires. Okay.
Là, je dis la première édition du dictionnaire de Littré.
Ah, donc c'est une édition spéciale.
Oh, je dirais que c'est 1700.
Ouais, moi
quand
je
même.
Pense aussi. Après, ouais, je pense aussi.
Je sais pas.
Après, il y a aussi. Après, il y avait l'invention de Gutenberg et tout. Donc,
ah, oui.
La première moi, ou la deuxième une
après,
des deux.
On est à 1791. On est pendant la Révolution française. Donc, soit la première, soit la deuxième aussi. Vas-y, tu choisis la première et moi je choisis la deuxième.
Ok,
okay, comme ça on est sûr d'avoir.
Donc, on voilà. T'écoute, Antonin.
Comme ça, on est sûr. Que vous vous êtes trompé.
Okay.
Donc voilà, donc c'est un peu plus tard quand même.
Ah,
je pense.
Drôle. Ne jamais dire être sûr, ne jamais être sûr comme ça là. La déception elle est lourde.
Donc du coup c'était quelle date?
1865.
Ok. Donc,
cette date, oh, on a juste.
Pas beaucoup ouais.
100 ans, on a juste 100 ans d'écart, c'est pas grave.
Oui.
22 siècles voilà. Alors ensuite, en quantité, l'Égypte produit plus 1 d'agrumes, 2 de canne à sucre, 3 de coton.
Ah, j'hésite entre coton
de...
et
ouais.
Canne à sucre.
Ouais.
Hein.
Pour moi, coton.
Coton.
Pour moi,
ouais.
Canne à sucre, c'était au.
Ah non, canne à sucre,
le...
ça peut être pas mal
je
aussi.
Sais,
hein.
Je sais pas. Pour moi, c'est plus bas dans le... dans... en Afrique, la canne à sucre. Enfin, je sais pas.
Ouais, mais c'est à côté d'eau et tout, hein,
ouais.
L'Égypte. Donc ça peut être pas mal. Hein.
Oui, y a
je
le...
sais pas.
Mais coton aussi.
Ouais, coton aussi.
Je dirais un des deux.
Bon, moi je vais dire canne à sucre.
Moi, je pense que
canne à sucre.
Vous semblez avoir écarté agrumes. Donc, oui, c'est une bonne chose de l'avoir écarté, je vous dis ça. Donc, oui, ça se joue entre canne à sucre et coton. Et la bonne réponse est canne à sucre.
Ah, parfait.
Donc, en quantité, il y a plus de canne à sucre qui est produit en Égypte. Oui, okay. Ça ne veut pas dire que les autres sont mis de côté. Hein. Il doit sûrement y en avoir. Parce que c'est vraiment vers ces eaux-là que les agrumes, vous voyez, vers l'Espagne, le coton, beaucoup en Afrique aussi.
Et ben on saura.
Voilà.
Voilà, maintenant on sait.
Même une question. 10 décibels sont équivalents à. Alors,
10 décibels sont équivalents.
On est obligé de donner des réponses. Alors, 1, 1 watt. 2, 1 bel. 3, rien du tout.
Mais c'est 10 décibels. 10 décibels. C'est 10 bel, non ?
Bah non.
Non, 10 décibels, ce serait égal à 1 bel, 1 watt et rien du tout.
Bah en vrai je dirais un
peu. Rien du tout dans le sens aucun des deux propositions.
Moi je pense aucun des deux propositions.
Ouais, je dirais que c'est... Non c'est...
Est-ce qu'on peut vraiment convertir ça en watts?
Bah 10 décibels.
Bah en watts c'est plus l'électricité. Et un bel. Hein.
Bah oui c'est pour ça.
Un bel.
C'est le son avec... c'est des...
Après ça peut-être...
Des ondes sonores
avec, l'odeur de choc,
avec l'électricité. J'ai pas fait beaucoup de physique chimie mais il me semble pas.
Alors donc 10 décibels sont équivalentes à soit un watt, soit un bel... Soit vous êtes dans le déni, vous dites rien du tout.
Moi je dirais un bel.
Moi je dirais rien du tout.
Je dirais un bel.
Et ben ce sera un bel.
Oui. Ah, okay.
Parce que c'est 10 décibels et ensuite c'est la colonne des bels.
Décibels, bel, c'est comme.
Ok, mais c'est vrai qu'on mesure pas beaucoup en bel. Donc,
Ah oui, très très peu.
Oui, oui, c'est. Bah, pourtant en plus, vous voyez, il y a moyen de s'en servir. Hein. Après les bels, c'est. Oui, c'est souvent... Ça ferait des trop petits chiffres, je pense. C'est pour ça qu'on n'utilise pas les belles.
Oui.
Alors, dixième et dernière question, si vous n'y connaissez. Un individu albinos a toujours, 1, les yeux rouges, 2, les cheveux blancs, 3, les dents jaunes.
Les cheveux blancs. Parce que c'est un manque de pigments, oui, il me semble.
C'est ça, exactement.
Au niveau de l'ADN,
c'est pas les,
je
les
sais
yeux
plus.
Aussi blancs
Non, les yeux un peu plus
gris.
Rouges, peut-être, mais c'est pas tout le temps.
Les cheveux blancs, je trouve ça peut bien aller. Hein.
Surtout les cils blancs, les sourcils blancs,
les
c'est super
blancs,
beau.
Les cils blancs, je trouve ça super joli.
C'est super beau.
C'est incroyable.
RCN, l'âge bête.
Très bel après-midi sur RCN. Pour terminer ce best-of de l'âge bête, comme promis, on s'écoute la chronique de Louise, juste après Ma faute de Marine. Merci de nous écouter.
Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Bien ma faute, ma faute. La nuit est calme, sans le son de ta voix. Si tu la hausses, ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes. Celle qui reste, après tout le vacarme. C'était bien ma faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. Tu vois, je t'aime malgré tout ça. Maintenant je sais que c'est pas moi. Pourtant je suis tombée si bas. Avec toi je ne m'aimais pas. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute.
bien ma faute. Ma faute. Crie à l'aide, pleure à l'aide. Tu m'as dit c'est ta faute. Crie à l'aide. Crie à l'aide, pleure à l'aide. Tu m'as dit c'est ta faute. Tu m'as fait perdre celle que je pensais si forte. Mais l'averse est passée quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent. Ce sera plus jamais ma faute.
L'âge bête sur RCN.
Le best-of de l'âge bête est presque déjà fini. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Louise qui nous parle du passionnant conte du lièvre et de la tortue.
RCN, l'âge bête.
Alors, j'ai décidé de vous parler du tortue et du lièvre. Donc, c'est un conte qui a transformé les continents parce qu'on en parle aujourd'hui et normalement, vous le connaissez avec la fable de la fontaine.
Oui,
donc,
c'est assez connu.
La tortue et le lièvre est une histoire intemporelle qui nous enseigne les leçons universelles de la patience, de la ruse, de l'arrogance et de la persévérance. Ce récit est connu à travers de nombreuses variantes. En Afrique, il illustre le triomphe de l'intelligence et de la stratégie face à la brutalité et à la rapidité. Donc j'avais envie de vous parler de ce conte parce qu'il y a quand même quelques versions entre la version africaine et celle qu'on connaît nous dans la fable. Donc en gros, un jour, une tortue et un lièvre se retrouvent dans la forêt et le lièvre rapide, agile, ne manque pas une occasion de se moquer de la tortue qui est très très lente et pesante en lui disant qu'avec sa lenteur, elle n'arriverait jamais à aller quelque part et que lui, il est rapide, plus rapide que les animaux de la savane. Et du coup, la tortue, patiente et sage, accepte les moqueries sans réagir. Mais pour donner une leçon d'humilité au lièvre, elle lui propose un défi. Elle lui dit, puisque t'es si sûr de toi, faisons une course, nous verrons qui est le plus malin à l'arrivée. Donc le lièvre, il éclate de rire et il accepte immédiatement.
Pour l'instant, ça change pas du conte de la fontaine.
Une course contre une tortue, ça lui paraît complètement ridicule. Du coup, la date de la course, elle est fixée et les animaux de la forêt se rassemblent pour assister à cet événement improbable au signal du départ. Le lièvre s'élance comme une flèche, laissant la tortue bien loin derrière. Mais trop sûr de lui, il décide de ralentir, de s'arrêter pour manger, boire et même de faire une sieste, certain qu'il pourrait rattraper la tortue à tout moment. Ça, jusqu'ici, c'est encore le conte de la...
Oui, c'est assez proche. Ça me rappelle bien.
Et pendant que la tortue avance lentement mais sûrement, elle s'arrêtera jamais et continue de progresser lorsque le lièvre il va se réveiller, se rendre compte que la tortue est proche de la ligne d'arrivée. Il bondit pour la rattraper, pour rattraper son retard, mais il est trop tard et la tortue franchit la ligne d'arrivée sous l'acclamation des animaux. Donc humilié, le lièvre apprend de ses leçons précieuses, la patience, la persévérance. Le fait que la persévérance l'emporte souvent sur l'arrogance et la précipitation. Donc ça, c'est le conte qu'on connaît tous. Et la variante africaine que j'apprécie beaucoup, c'est une version plus rusée. Elle propose à certaines traditions africaines. Et la tortue ne se contente pas de compter sur sa patience, elle utilise également son intelligence et la solidarité de sa famille. À savoir qu'en Afrique, la famille, c'est une valeur qui est vraiment très mise en avant. Et du coup, elle est vraiment mise en avant dans ce conte. C'est-à-dire qu'avant la course, dans le conte africain, la tortue, elle réunit ses proches et leur confie un plan ingénieux. Elle va courir contre le lièvre. Mais vu qu'elle sait ça, elle sait très pertinemment qu'elle est beaucoup moins rapide que lui. Elle va demander de l'aide à ses amis pour le tromper. Elle place ses cousins et cousines tout au long du parcours, cachés dans des buissons ou derrière des arbres. Chaque tortue porte un foulard de la même couleur pour que le lièvre pense qu'il s'agit toujours de la même tortue. Et lorsque la course commence, le lièvre s'élance et dépasse la tortue comme prévu. Mais quelques instants plus tard, il voit une tortue devant lui. Déconcerté, il accélère et la dépasse à nouveau. Cependant, plus loin, il en aperçoit encore une autre. Cela se reproduit plusieurs fois et à chaque fois, une tortue apparaît mystérieusement devant lui. Le lièvre, épuisé et désorienté, finit par abandonner, croyant qu'il n'arriverait jamais à battre cette tortue magique. Et pendant ce temps, la tortue et sa famille se tiennent près de la ligne d'arrivée et elle la franchit en triomphant.
Oh, c'est super! J'aime trop la variante.
Du coup, là, la patience et la persévérance, elle va triffer de l'arrogance dans la version classique. Et dans la version, africaine, le fait qu'elle ait besoin de sa famille et qu'elle prenne conscience que, elle n'y arrivera pas toute seule et qu'elle demande l'aide de ses amis, je trouve ça beaucoup plus logique parce que, en fait, c'est pas logique qu'elle provoque le lièvre dans une course alors qu'elle est censée être sage, la tortue, et qu'elle sait pertinemment qu'elle n'arriverait pas à une course normale.
Donc je trouvais vraiment cette variante très intéressante.
Ouais, c'est sympa, surtout ouais. En Afrique, avec toutes les valeurs
c'est ça.
Qui tournent autour de la famille, c'est super.
Donc voilà, n'acceptez pas de course contre des tortues parce que vous allez être bernés.
Le best-of de l'âge bête touche déjà à sa fin, mais vous nous retrouvez en direct dès la semaine prochaine, de retour de vacances, pour vous proposer de nouvelles chroniques. Passez une très belle après-midi sur RCN. À mercredi prochain, 14h en direct.